Chapitre 111. Sommet du mont Arara, Turquie. Dans l'étroit couloir des boulis, au gré des variations de l'inclinaison de la pente, la colonne de 25 hommes s'étirait ou se rétractait tel un collier élastique de perles multicolores. Les couleurs vives des vestes polaires et des sacs à dos contrastaient avec l'immensité noire et blanche.
« Les nappes de brouillard vont maintenant devenir plus denses », prévint Parella d'une voix monocorde.
Cortès, le visage couvert d'une cagoule noire, emboîtait le pas du professeur. Derrière eux, la rangée d'hommes s'étirait sur une quarantaine de mètres. Cortès relaya l'information vers Ahmet qui le suivait. Depuis son réveil, Parella faisait preuve d'une coopération résignée, qui se limitait à donner des ordres avec la précision d'un chirurgien blasé. Cortès savourait le dilemme dans lequel il avait enfermé le professeur. Celui-ci, en coopérant, croyait épargner ses compagnons. Des compagnons que Zeytine, à cette heure, devait déjà avoir exécutés. Un vent froid cinglait leur visage. Avant de partir, Parella avait égrené mécaniquement la liste du matériel à emporter. Collants chauds, anorak, bonnets et gants de ski, crampons, cordes, comprimés anti-mal des montagnes. Cortès n'en demandait pas plus à Parella. Au retour, il l'exécuterait, comme les autres. L'ascension demeurait aisée, même si la voie devenait moins large et si la pente se raidissait progressivement. L'herbe avait maintenant complètement disparu. La neige s'accumulait au pied des roches basaltiques, parfois lisses comme un miroir, parfois piquées de myriades d'alvéoles. Cortès consulta son altimètre. On approchait des 5000 mètres. Le vent soufflait de façon continue, soulevant des flocons de neige épars. La plupart des hommes avaient chaussé des lunettes de ski. Entre eux et la plaine qui s'étendait à perte de vue 3000 mètres plus bas, des nappes de brouillard flottaient, comme en apesanteur. Parella marmonna.
« Impossible de garantir qu'on pourra monter jusqu'en haut. Le brouillard devient imprévisible à cette altitude. »
Cortès pesta. Que le vieux ne s'amuse pas à lui jouer un tour. Il n'était pas du genre à croire la nature capable de se liguer contre eux pour refuser de livrer le secret de l'Arara. Ils continuèrent, silencieux. De longues minutes plus tard, Parella ralentit l'allure. Il fouilla son sac et en sortit une thermos.
« Même s'il fait un froid glacial, commenta le professeur, il ne faut jamais cesser de s'hydrater. »
Le vent violent empêchait d'entendre à plus de 5 mètres les conseils du professeur. Cortès demanda que l'on transmette les consignes d'homme à homme. Les lourdes chaussures de Parella s'enfonçaient dans la fine couche de neige. Il repartait déjà, conservant une allure lente mais régulière. Visiblement, le vieux professeur n'était pas gêné par la raréfaction de l'oxygène. L'expérience de la haute montagne, sans doute. Cortès, à l'inverse, sentait son rythme cardiaque s'accélérer. Il se força à se concentrer sur chaque pas, sur chaque inspiration, pour éviter que l'excitation ne prenne le pas sur toute autre pensée. Le sommet n'était plus qu'à quelques centaines de mètres. Le vent incessant l'enivrait. Désespérant de se faufiler par ses poignets ou ses chevilles, le souffle enveloppait ses lèvres, ses yeux, baignant l'atmosphère d'un flou irréel. Le grand névé apparut presque par surprise derrière une nappe de brouillard qui s'ouvrit devant eux avec l'élégance d'un rideau de théâtre. Tous s'immobilisèrent. Ils connaissaient les consignes. La seule difficulté de l'ascension de l'Arara, toute relative, consistait à gravir les derniers 230 mètres de dénivelé sur les flancs d'un glacier. Il fallait chausser les crampons et s'encorder, même si la pente n'était pas très raide. Le principal risque n'était pas de dévisser, mais de s'égarer dans le brouillard aux mouvements imprévisibles. Les accidents mortels sur l'Arara n'avaient jamais pour cause des chutes, mais la disparition de touristes imprudents se séparant un instant du groupe et ne le retrouvant jamais. Plus que quelques dizaines de mètres. Le glacier écorché s'infléchissait à présent sous leurs pieds.
« Il y a moins de brouillard au sommet », précisa
Parella en tirant sur le lien qui l'attachait au reste de la cordée.
« Nous n'y resterons pas plus de 15 minutes. Le vent a l'avantage de disperser la brume, mais vous frigorifie sans même que vous vous en rendiez compte. »
10 derniers mètres. Ils s'agglutinèrent au sommet, s'immobilisant un à un. devant leurs yeux stupéfaits, s'étendait à perte de vue le Kurdistan, et bien au-delà l'Arménie, l'Iran et la Turquie. Un mercenaire russe tendit la main vers le nord.
L'Elbrouz.
Parella consulta sa montre. Cortès, d'un doigt ganté, déclencha le chronomètre à son poignet, puis il leva les yeux. Il se figea soudain, incapable de croire ce qu'il voyait. Devant lui, bouchant l'horizon, se dessinait une pyramide, noire, aux formes géométriques parfaites. Le triangle gigantesque recouvrait la plaine. Cortès trembla malgré lui. Quelque chose dérapait, il ne comprenait plus. Était-il victime d'une monumentale hallucination ?